Bonjour à tous, un vrai plaisir de vous accueillir ici aujourd'hui pour ce qui promet évidemment d'être l'acmé du circuit estival de Lille. Bon, avant bien sûr toutes les autres manifestations à venir organisées par un lieu, une rencontre et une île des auteurs. Alors bon, vous constaterez qu'il y a quand même une très grande cohérence dans la programmation de ces conférences, puisque bon, la semaine dernière, Elsa Cariou, qui est ici présente, je ne sais pas où, nous parlait du réchauffement climatique, l'impact du réchauffement climatique sur l'île. Et aujourd'hui, on va enfin savoir, bon, sinon exactement pourquoi nous en sommes arrivés là, mais au moins sur quelle trajectoire nous nous situons. Et qui de plus qualifié pour nous en parler que Benoît Luc, ici présent, ancien directeur de la stratégie, puis directeur Europe de la branche aval de Total, qui a œuvré dans ce groupe au développement des énergies bas carbone. Alors c'est un secret assez bien gardé, mais en fait il se dit que c'est en fait grâce à lui que Total s'appelle aujourd'hui Total Énergie. Et après sa carrière chez Total, donc Benoît est consultant en entreprise et professeur en politiques énergétiques dans plusieurs universités internationales et dans des grandes écoles françaises, ainsi qu'à partir d'aujourd'hui sur l'Île-Dieu. Donc la chaire commence, enfin c'est la conférence inaugurale, vous savez, du Collège de France. Donc la conférence du jour s'intitule Les défis de la transition énergétique après la volte-face américaine. Bon, comme vous pouvez le constater, on est bien à l'Île-Dieu, mais au cœur de l'énergie et de la géopolitique planétaire. Donc l'exposé est structuré en cinq parties. Bon, une brève introduction. La situation fin 2024, l'impact des élections américaines, les autres zones géographiques, la France et ce qui nous intéresse au plus haut point, l'Île-Dieu, avec quelques mots de conclusion. Alors, bon, ma mission aujourd'hui, c'est évidemment de. Vous savez, c'est comme tous les experts, ils sont tellement savants qu'on a du mal à les canaliser. Donc, en fait, le problème, c'est qu'ils ne parlent pas trop. Donc, l'idée, c'est que vous gardiez les questions pour la fin, si cela est possible, et on les fait durer. Bon, ça dépend de votre capacité de résistance, hein, et puis de vos obligations familiales. Donc, après, ça, on verra.
Merci. Merci, Michel.
Et l'introduction, elle se résume de la façon suivante. C'est si on ne fait rien, on double le volume de la boule de cristal. Mais après, il va vous dire
Ah
un
bah
petit
c'est
peu.
très bien. Bon, merci, merci Michel. Bon, très heureux d'être avec vous. Juste vous dire que lorsque Arnaud m'a contacté en disant, bah, tiens Benoît, j'ai entendu parler de toi, est-ce que tu accepterais de faire une conférence sur l'énergie? Bon, au début, j'ai pas été très enthousiaste. Pourquoi? Parce que bah, c'est ce que je fais pratiquement toute l'année. Et quand on est en vacances, on aime bien se relaxer. J'ai mon épouse et mes enfants qui sont là. Ils vous diront qu'est-ce que tu fais encore à travailler pendant les vacances? Mais bon, il y a un élément qu'on a discuté avec Arnaud et je lui ai dit il y a quand même bon deux choses. Première chose, et c'était très bien dit lors de la conférence d'Elsa, sur l'énergie, il y a une profusion d'informations. Ce qui fait que c'est très très difficile de rester et d'avoir en tête les fondamentaux. Il y a des gens qui le font bien, hein. Moi je trouve, je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu la BD de Jean Covici, Le Monde sans fin, qui est un bon exercice de vulgarisation. Hein. Et je pense que ces exercices, alors on accepte ou on n'accepte pas ces théories, mais c'est important pour comprendre les fondamentaux de l'énergie. Et la deuxième chose, et c'est là où j'ai dit à Arnaud, c'était fin novembre. Arnaud, si tu t'en rappelles. Je lui dis, attends, il y a un truc qui est en train d'arriver qui est assez monstrueux quand même. C'est la politique américaine qui risque de changer complètement. Il n'y a pas encore d'annonce, mais quand on regarde ce qui se prépare, ça risque, je dirais, de secouer assez fortement. Arnaud, je pense qu'on n'est pas déçus, hein. Quand on regarde ce qui se passe, on est tous surpris sur la rapidité du volte-face américain. Et alors qu'on estimait qu'il faudrait du temps, que lorsqu'il avait fait son premier mandat, finalement, il n'y avait pas eu tellement de changements. Là, c'est en train d'être très rapide et c'est le thème, hein, de cette, enfin, c'est le focus, en tout cas, de cette intervention. Alors, le monde de l'énergie, en quelques mots, en effet, si on regarde les projections de la demande d'énergie, si on s'arrête aux deux facteurs principaux que sont la démographie et l'évolution du pouvoir d'achat par habitant, on s'aperçoit qu'entre maintenant 2025 et 2050, si on ne fait rien, la demande d'énergie mondiale va être multipliée par 2, fois 2. Alors ça vient d'où ? Ça vient de l'augmentation de la population, puisque aujourd'hui on est 8,2 milliards, et tous les démographes, je ne suis pas expert en démographie, mais les démographes vous disent que ces 8,2 milliards deviendront en 2050 10 milliards d'habitants. Alors comment la planète va se répartir ? Le premier pays, le pays le plus peuplé en 2050, ça sera l'Inde, mais de beaucoup. Quoi. La Chine aura fortement réduit son nombre d'habitants. Et on va voir des pays que vous n'imaginez pas forcément en termes de nombre d'habitants. Le Pakistan, le Nigeria, la République démocratique du Congo, l'Éthiopie, qui sont des pays qui, quand on regarde le taux de natalité actuel, vont doubler leur population. Donc le monde va se déformer complètement avec une planète qui va se peupler très fortement dans ces pays-là. Je ne parle pas de l'Europe qui se dépeuple et les pays donc les plus avancés qui, eux, continueront à se dépeupler. Quand on a à peu près 2 milliards d'habitants qui vont arriver, des niveaux de pouvoir d'achat extrêmement faibles, ben vous estimez bien que ces gens-là, ils aspirent à avoir une vie correcte. À avoir accès à ce qu'on appelle le clean cooking, c'est tout simple, c'est faire la cuisine de manière propre, c'est-à-dire ne pas aller déboiser les forêts ou ce qui reste de végétaux lorsqu'on est proche du désert. Il y a 2 milliards d'habitants aujourd'hui sur la planète qui n'ont pas accès, 2 milliards d'eux qui n'ont pas accès au clean cooking. Donc ces gens-là, ils n'ont aucune... forcément, ils attendent de pouvoir avoir accès à un minimum de niveau d'énergie. Sachant que ces gens-là n'ont même pas la capacité à se déplacer. Donc ils aspirent aussi à pouvoir se déplacer, sortir un peu de leur village. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il y a 800 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Voilà. Ce qui veut dire que derrière ça, c'est de se dire qu'il y aura, et il est nécessaire d'avoir de la croissance économique pour garantir un niveau de vie correct à ces populations. Et ça veut dire que la croissance économique mondiale, on a tous intérêt à ce qu'elle continue à croître. La croissance était de l'ordre de 3% jusqu'à présent. Si on regarde ce qui peut se passer aujourd'hui, justement avec la politique US, ça va sans doute décroître. Mais 2% par an, ça semble raisonnable. Donc en fait, si vous prenez 2% sur 25 ans, plus 20% de population, vous arrivez à doubler la consommation d'énergie mondiale.
Bon, ça fait quand même une grosse boule de cristal, c'est sûr. Pour essayer de poser l'évolution de la trajectoire, bon, il faut évidemment un point de départ. Donc le point de départ, c'est la situation à fin 2024, et c'est ce que Benoît appelle le monde d'avant, en fait, maintenant.
Voilà. Alors, face à ce constat d'une consommation d'énergie qui doublerait, bien sûr, il y a des limites, et heureusement, les limites sont quand même assez identifiées maintenant. La première limite, c'est l'accès aux matières premières. L'accès aux matières premières n'est pas illimité, notre monde n'est pas sans fin. Donc, bien sûr, il va falloir économiser de l'énergie, je crois que c'est le premier niveau. Donc l'efficacité énergétique. Donc tous les scénarios, et en particulier dans les accords de Paris, qui datent de 2015, ont mis en avant cette nécessité absolue d'augmenter l'efficacité énergétique. Ça veut dire quoi ? C'est très simple, pour le même usage, consommer moins d'énergie. Alors juste se dire, est-ce que c'est une vue de l'esprit ou est-ce que c'est quelque chose qui est faisable ? Je voudrais revenir aux États-Unis, je pense que c'est assez intéressant. Aujourd'hui, pour des usages qui sont quand même assez proches des nôtres, entre États-Unis et Europe, un Américain consomme en moyenne deux fois plus d'énergie qu'un Européen. Voilà, deux fois plus. Le rapport, il est de 1 à 2. Donc on peut se dire, les Américains ont un potentiel de réduction de leur consommation d'énergie qui est énorme. Donc ça, c'est dans certains pays, c'est faisable. Alors pourquoi est-ce que certains pays ne regardent pas l'efficacité énergétique ? C'est que dans de nombreux pays, l'énergie n'est pas chère du tout. Alors ça, on n'en a pas forcément, conscience. Aux États-Unis, le litre d'essence est à, en gros 1 euro le litre. Le litre d'essence hors taxe, c'est entre 65 et 70 centimes. Donc aujourd'hui, à la pompe, c'est 65-70 centimes. Des pays le taxent à 150%. C'est la France, c'est l'Europe, où les 65 centimes deviennent 2 euros. C'est pareil pour le fioul domestique, c'est dans de moindre mesure pour le gaz naturel. Ça vous pousse à faire des économies d'énergie. Donc le premier moyen de faire des économies d'énergie, c'est d'avoir un prix de l'énergie qui est à un certain niveau. Alors il y a des pays qui sont dans des situations qui sont quand même assez pires. C'est des pays producteurs qui en fait subventionnent leur population grâce à l'énergie. Il y a deux ans, je donnais un cours à l'université de Ouargla en Algérie, et à ma grande surprise, en arrivant à Alger, je m'aperçois que le litre d'essence est à 30 centimes. 30 centimes, c'est-à-dire que le pays décide de subventionner sa population à partir des recettes d'exportation qu'il va avoir. Arabie Saoudite, le prix de l'essence est à 50 centimes. Le Kazakhstan, pareil, des prix très bas, et le Nigeria encore plus bas. Donc, les accords de Paris disent, mais attendez, arrêtez de subventionner ces énergies fossiles. Pourquoi ? Parce que ces énergies fossiles sont émettrices de CO2, et c'est la deuxième contrainte. La deuxième contrainte, c'est arrêtons d'émettre autant de CO2 sur la planète, puisqu'il est maintenant accepté, pratiquement prouvé, le lien entre émissions de gaz à effet de serre et réchauffement climatique. Voilà, donc cette prise de conscience, elle se traduit en fait et en acte, et vraiment un élément fondateur, c'est les accords de Paris de 2015. Alors, très rapidement, les accords de Paris de 2015... La COP 21, c'est-à-dire les parties prenantes de nombreux pays, des dizaines de milliers d'experts, vous voyez, se réunissent et prennent en compte un élément important, c'est de reconnaître la corrélation entre augmentation des températures et émission des gaz à effet de serre. Et ça, c'est basé sur les études du GIEC, qui tous les 5 ans remet à jour ces corrélations qui permettent de dire tant de gaz à effet de serre émis, voilà quel peut être l'impact sur les températures. Et c'est de se dire, si on dépasse un certain nombre de degrés d'élévation de température, on risque d'avoir des phénomènes que la Terre aura du mal et les habitants auront du mal à absorber. Et c'est là que, après une négociation complexe et difficile, arrive l'objectif qui n'est pas un objectif contraignant. Les COP, les accords qui sont faits lors des COP ne sont pas contraignants pour les États. Ce sont ce qu'on appelle en anglais des guidelines. C'est qu'est-ce qu'il faudrait faire pour. Ça ne veut pas dire qu'il le faut faire. Vous verrez, la nuance est quand même très importante. Accord de Paris, les parties se mettent d'accord pour dire il faudrait essayer de limiter l'augmentation de température, de rester en dessous de 2 degrés par rapport aux années pré-industrielles, c'est-à-dire 1900. Ce n'est pas 2 degrés par rapport à il y a 30 ans, hein. C'est 2 degrés par rapport aux années 1900, sachant qu'on est aujourd'hui aux alentours de 1,2 degrés. Certains pays, en particulier les îles du Pacifique, disent que ce n'est pas acceptable, parce que les scénarios nous montrent que l'élévation des mers à 2 degrés, qui serait aux alentours de 50 cm hein, par rapport aux situations antérieures, est trop élevée, on risque de disparaître. 2 degrés, ce n'est pas acceptable, c'est donc 1,5 degré. Et c'est là où on arrive à ce consensus qui est de dire essayons de limiter l'augmentation des températures en dessous de 2 degrés et d'atteindre 1,5 degré. Alors c'est toujours interprété quand vous entendez le scénario 1,5 degré, c'est un scénario qui est, on va le voir, très difficile à atteindre, mais qui pourrait rester un objectif. 2 degrés reste quand même gravé dans le marbre. Accord de Paris, tout le monde se met d'accord, 50 pays, 55, représentant 55% des consommations signent, on est dans le bon sens. Malheureusement, arrivent très vite les élections américaines et l'arrivée de Trump. Et Trump dit à l'époque, moi, américain, je suis le président des États-Unis avec mes équipes, c'est pas Trump tout seul. Je ne veux pas, je ne souhaite pas être obligé par cet organisme international qui me guide dans ma politique énergétique. Donc très vite, Trump dit « je sors des accords de Paris ». Et ça, c'était dès 2016-2017. Il ne pouvait pas sortir tout de suite. Parce que les accords de Paris avaient prévu que lorsque vous les signez, vous êtes lié pour 3 ans. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas vu d'effet immédiat. Donc pendant 3 ans, les États-Unis restent dans les accords de Paris. Et là, ben, vous imaginez bien que les autres États commencent à se poser des questions. La Chine, premier émetteur de CO2. l'Inde, deuxième émetteur de CO2, les pays exportateurs qui se disent « mais si les Américains sortent des accords de Paris, finalement, quelle est leur légitimité ?» Et là, arrive 2021, les élections de Biden, qui, tout de suite, revient dans les accords de Paris. Et ça, c'est un changement fondamental. Il fait que ces grands pays émetteurs qui hésitaient, qui se posaient la question de ce qu'ils devaient faire ou allaient faire, sachant que le deuxième émetteur de CO2, les États-Unis, avec 15%, sortait, se disent, il y a une dynamique, l'Europe s'engage à respecter les scénarios net zéro émission, l'Europe est partante, et les États-Unis reviennent massivement. Donc c'est assez logique que ces grands pays, ces grands continents se disent, il faut absolument qu'on revienne dans cette dynamique. Et donc là, post-Glasgow, c'est très intéressant de voir qu'à ce moment-là, les grands pays se positionnent. Alors, qu'est-ce qu'on a post-Glasgow, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire les États-Unis, net zéro emission 2050, d'accord? Donc, complètement en accord avec les accords de Paris. L'Europe, le Japon, la Corée du Sud. Un grand pays, c'est la Chine, qui regarde ce que ça implique pour lui, premier émetteur de CO2, 30% en gros, les CO2 mondiaux, et qui se dit, attendez, moi, 2050, c'est pas possible. Donc la Chine dit 2060. Donc on va retrouver la Chine, la Russie également, l'Arabie Saoudite, les Émirats qui disent 2060. Et il y a le pays qui sera le plus peuplé en 2050, on l'a cité, c'est l'Inde, qui voyant tout ça, très très utilisateur de charbon, se dit, oh là, il va falloir que je m'engage. Et donc l'Inde prend comme engagement 2070. Donc 2050, 2060, 2070. Ça c'était Glasgow. Ensuite, on a la conférence de Dubaï où, à Dubaï, on dit c'est bien ces engagements. Qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? Très, très vite, de maintenant à 2030, tripler les renouvelables, doubler le taux d'efficacité énergétique, inventer des carburants bas carbone et surtout sortir de l'énergie qui est aujourd'hui la plus polluante, utilisée à 30% dans l'énergie primaire mondiale, c'est le charbon. Et enfin, progressivement diminuer les consommations, bien sûr, de gaz et de pétrole. Voilà. Et donc, pour répondre exactement à ta question, pour suivre aujourd'hui où on en est, l'Agence internationale de l'énergie reprend tous les engagements qui sont pris par les pays et utilise en fait deux scénarios. Un premier scénario, il dit, on va reprendre toutes les législations, toutes les obligations qui ont été prises, alors un exemple tout simple, en Europe, fin du véhicule thermique neuf en 2035. Donc ça, il l'intègre. Un autre exemple, quelque chose qui fait beaucoup de polémique, c'est les zones à faible émission aussi. Ça fait partie, les zones à faible émission dans les pays qui les décrètent. Ça fait partie des moyens de diminuer les émissions de CO2. Quand ils font la somme de tout ça, année après année, et c'est pour ça qu'il fallait être assez optimiste, on s'aperçoit qu'on arrive à des résultats qui se rapprochent, entre guillemets, de ces objectifs de 2 degrés. Donc même si on n'y est pas, aujourd'hui, le dernier scénario, c'est le scénario 2024, vous voyez, sur les bases de 2023, si les pays respectent les engagements qu'ils ont pris, on arriverait à une augmentation de température par rapport à 1900, toujours, de l'ordre de 2,4 degrés. Alors attention à l'interprétation de ces 2,4 degrés, parce que à chaque fois, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Ce sont des approches probabilistes. Il n'y a aucune équation qui va vous dire s'il y a tant d'émissions de gaz à effet de serre, ça sera 2,4 degrés. C'est la complexité, en fait, de ces calculs. 2,4 degrés, c'est les probabilités à 50% d'atteindre 2,4 degrés pour un certain degré, pour un certain niveau d'émission. 25% de probabilité d'être plutôt aux alentours de 2 degrés et 25% de probabilité d'être plutôt aux alentours de 2,8 degrés. Donc les écarts sont quand même très importants. Ce qui compte, c'est la tendance. Voilà. Donc, pour conclure cette partie-là, ce que je dirais, c'est que fin 2024, on est quand même dans un monde qui a pris conscience de ces enjeux, qui est en train de prendre des réglementations qui sont mises en place, pas forcément tout de suite, mais à terme. Et puis, la troisième chose, et je m'arrêterai là, c'est que quand l'AIE regarde finalement tous les objectifs qui sont déclarés par les États, pas encore mis en place, mais déclarés. Alors on peut dire que c'est du wishful thinking, mais au moins c'est écrit dans leur plan. Si on fait la somme de ces objectifs, on arriverait à être en dessous de 2 degrés. Donc la probabilité à 50% serait 1,8 degré. Voilà, donc un monde relativement plutôt qui va dans le bon sens, même si on sait que les objectifs sont très difficiles à atteindre. Et voilà la situation qu'on avait, je dirais, à fin 2024.
Bon, et vous avez bien compris que ça, c'était le monde d'avant, parce que à la fin du monde d'avant et au début du monde d'après, il y a eu des élections américaines. Et l'impact de ces élections américaines, en fait, Benoît l'a résume en disant on va vers l'irréversibilité.
Alors, irréversibilité à court terme. Faut aussi toujours se dire que des élections, un président et ses équipes, hein, c'est pas dans la logique américaine, c'est pas Trump, c'est Trump et ses équipes. Des équipes qui sont des durs derrière et qui mettent en avant comme seul intérêt, je dirais, prioritaire, l'intérêt des États-Unis. C'est ça. Hein, c'est Make America Great Again, exactement. Donc, c'est ça son driver, alors que le driver des démocrates était beaucoup plus altruiste, qui était de dire, États-Unis, on a un rôle à jouer dans le monde, décarbonons, mais aidons également les autres pays à décarboner. Là, on est dans une autre logique, on n'est plus du tout dans une logique mondialiste, on est dans une logique de bilatéralisme, on l'a vu, où Amérique d'un côté, et puis ben, ceux qui nous aiment, ceux qui nous suivent, ben, on sera sympathique avec eux, les autres, débrouillez-vous. Alors c'est quand même spécialement inquiétant, c'est que, un, les États-Unis, donc encore une fois, représentent 15% des émissions de CO2. Quand on regarde ce qu'a fait Trump, il a, le 8 janvier, exactement, il a fait exactement ce qu'il avait prévu de faire. Donc, il sort des accords de Paris, il supprime tout ce qui est subvention sur le renouvelable, sur le véhicule électrique, sur les recherches sur les batteries, qui étaient très importantes pour compenser le renouvelable. Et il lance le fameux slogan qui ne veut pas dire grand-chose, en fait, « Drill, baby, drill ». Ça ne veut pas dire grand-chose parce que ça pousse, en fait, les Américains à continuer à produire du pétrole et du gaz, sachant que les États-Unis aujourd'hui sont devenus le premier producteur mondial de pétrole et de gaz. Donc en fait, dans son idée America Great Again, si je produis plus de pétrole et de gaz, je permets à mon économie d'être plus compétitive parce qu'elle aura un coût de l'énergie plus bas que les autres. Et grâce aux exportations de gaz, de pétrole, ben à ce moment-là, c'est des recettes supplémentaires que je redistribuerai à l'interne. Derrière ça, il y a une logique, hein. Il y a une logique qui est quand même assez, enfin, pas du tout altruiste, hein, qui est Make America Great Again. Il y a une énergie quand même intéressante à suivre. On a parmi nous un de ces experts. C'est le nucléaire. C'est que sur le nucléaire, c'est assez intéressant de voir finalement quelle sera la position de Trump. Le nucléaire, il est très pro-nucléaire. Alors il faut dire que, un peu comme la France, hein, ils ont en gros deux fois plus de réacteurs nucléaires qu'en France, qui ont 40 ans, c'est les années 80, et donc va se poser la question du remplacement de ces réacteurs. Et là, Trump là-dessus est très américain, il faut qu'on ait la technologie du nucléaire. Donc ça c'est un point, je dirais plutôt positif, hein, dans le bas carbone. Et puis l'autre point quand même, c'est tout ce qui est recherche-développement sur le nucléaire, avec là deux axes qu'il veut vraiment pousser, c'est les small modular reactors, donc c'est ces petits réacteurs nucléaires qui équipent aujourd'hui les porte-avions, les sous-marins, et qui pourraient servir de génération électrique au niveau local. Et puis la deuxième chose, c'est la recherche et développement sur la fusion nucléaire. La fusion nucléaire, c'est reproduire à l'échelle industrielle la réaction qui se passe dans le soleil. Donc énormément d'énergie. Et là, même si je ne suis pas un expert du nucléaire, ce que j'ai pu voir l'année dernière au MIT, ce qu'ils annoncent et ce qu'ils continuent à annoncer, hein, c'est la mise en place d'un réacteur en 2030, hein, d'un réacteur de 400 MW à fusion nucléaire en Virginie. C'est vraiment à suivre. C'est vraiment à suivre. Est-ce que ce sont des annonces? Vous savez qu'en technologie, les Américains sont toujours super optimistes. Donc lorsque vous les voyez, yes, we will do it. Bon, quand il vous dit « we will do it » et puis que vous regardez année à année après les progrès qu'ils font, il ne faut pas les sous-estimer là-dessus. Donc si on regarde, on a des modèles qu'on utilise, c'est d'ailleurs des modèles qui sont conçus, qui ont été conçus par le MIT, c'est de se dire « mais finalement, si les États-Unis arrêtent de décarboner, quel est l'impact, quel serait l'impact sur la température de la planète ?» Bon, ils font 15% d'émissions. En fait, on se dit aussi que ça va peut-être pas durer cette politique ad vitam aeternam. Donc on a pris un petit jeu d'hypothèses en se disant, mettons que pendant 10 ans, ils fassent une pause. 10 ans, c'est énorme. Les projets qui ont été décidés jusqu'à présent, ils vont se faire. Ils vont parvenir sur les subventions qui ont été décidées sur de l'éolien et du solaire. Mais on va le voir dans les années 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et puis sur la recherche et développement, là, ça va être vraiment sérieux. En fait, l'impact, ça sera des impacts, alors peut-être que vous vous dites que ce n'est pas énorme, c'est comme des impacts de l'ordre de 0,1 à 0,2 degrés. C'est énorme en fait, 0,1 à 0,2 degrés. Quand vous voyez qu'on se bat aujourd'hui pour... on est à 2,4, on se bat pour être à 2. Donc, c'est pas beaucoup dans l'absolu, c'est beaucoup en fait hein, en termes d'impact climatique. Donc, impact américain, en effet, négatif sur la température de la planète. Mais il y a, je pense, enfin c'est ma... Il y a très peu d'analyses hein, qui ont été faites là-dessus. D'ailleurs, c'est étonnant, mais je pense qu'il y a pas mal d'organismes qui n'osent pas trop aujourd'hui sortir du bois là-dessus, parce que ça ne plaira pas aux Américains. C'est de voir l'impact d'une politique américaine qui ne croit plus à la décarbonation par rapport aux autres pays, et en particulier les pays qui exportent des matières sur les États-Unis. Je prends l'exemple de l'Inde. J'ai mes propres productions, j'exporte l'Inde, le Vietnam est aussi un bon exemple. J'exporte massivement sur les États-Unis. Pourquoi est-ce que j'irais décarboner chez moi, donc alourdir le prix de mes productions, pour ensuite exporter sur les États-Unis, qui me mettent en plus un tarif, qui me mettent une pénalité sur mes imports. Donc tout le monde vertueux, ou finalement les grands pays importateurs, vous voyez, mettraient en place une taxe carbone, pousse les autres pays également à mettre en place la taxe carbone. Et je donnerai un exemple sur le bassin méditerranéen avec le ciment, qui me semble encore plus illustratif. Mais le danger, il est là. Pourquoi est-ce que si le plus grand pays, finalement, un des grands pays du commerce mondial, ne décarbone plus, quel est mon intérêt à décarboner chez moi? Voilà. Et ça, c'est certainement un impact majeur. Alors, si on regarde maintenant dans ces modèles-là, on se dit, bah, tiens, imaginons que les engagements de ces pays-là qui voulaient décarboner à l'horizon 2060-2070 soient décalés de 10 ans. Alors là, l'impact, il est majeur. C'est plus 0,1, 0,2 degrés. On est plutôt de l'ordre de 0,5 degrés. Additionné à ce que feraient les États-Unis, on est plutôt entre 0,5 et 0,7 degrés. Donc voilà, l'impact, il est majeur. Je vais revenir sur un des points. Alors non, pardon. Je vais laisser Michel ensuite. Allez, pose-moi des questions.
Voilà. Bon, on n'a rien préparé du tout, hein, comme vous réalisez. En fait, une fois que la situation américaine est assez bien posée, bon, on peut se poser la question, c'est quid du reste du monde, parce que, et ce reste du monde, en fait, on s'aperçoit qu'il est en train de passer d'une notion de transition énergétique à une recherche d'indépendance énergétique, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Alors... Oui, Michel, tu as raison, et ça, on l'a vu, il y a eu un signal, c'est la guerre en Ukraine. On l'a vu, à partir du moment où l'invasion de l'Ukraine, les mesures de rétorsion contre la Russie, qui font qu'à ce moment-là, on essaye de limiter, bien sûr, beaucoup de pays essayent de limiter leurs importations, en particulier de produits pétroliers, pétrole et gaz naturel. La Russie est un des premiers producteurs hein, de gaz naturel au monde. Et là, il y a une prise de conscience que derrière un objectif qui était partagé par les accords de Paris, qui était la décarbonation, il y a un vrai enjeu d'indépendance énergétique. Alors comment se traduit-il cet enjeu d'indépendance énergétique? Malheureusement, il se traduit, il a eu un effet mais immédiat, c'est la relance de la consommation de charbon. Pourquoi? Parce que les grands pays consommateurs ont d'énormes réserves de charbon. Le charbon, c'est une des énergies les moins chères. Et si vous n'appliquez pas sur le charbon une taxe carbone, c'est ce qui est aujourd'hui le plus compétitif pour produire de l'électricité. Donc on a vu de nombreux pays qui en fait étaient dans une logique assez forte de décarbonation, quoi, revenir au charbon, quoi. La Chine, si je prends l'exemple entre 2023 et 2024 par exemple, si on regarde l'augmentation de la consommation d'énergie primaire en Chine, 50% vient des renouvelables. La Chine est le premier pays en termes de développement de renouvelables, donc ça c'est très vertueux. Mais c'est aussi 50% est venu donc du renouvelable, 50% du charbon et 50% du gaz. Je prends un pays que je connais bien pour y avoir travaillé et habité, c'est la Turquie. La Turquie, c'est un pays très intéressant pour ça. La Turquie a des centrales à gaz, a des centrales à charbon. La Turquie fait tourner au maximum ses centrales à charbon actuellement. Parce que le charbon est moins cher et disponible. L'Allemagne, n'en parlons pas. L'Allemagne qui est un des pays les plus exemplaires en développement de renouvelables, solaire et éolien, avec une politique de subvention très intelligente qui avait été mise en place pendant une dizaine d'années, de subventions dégressives, était devenu un des grands pays renouvelables pour des raisons d'intermittence, ne souhaitant pas bien sûr s'équiper de nucléaire pour des raisons politiques, comptait sur le gaz, le retour au charbon est massif. Donc voilà, on a un retour sur une prise de conscience de l'indépendance énergétique qui a été un peu oubliée, et puis soudainement aussi, et ça, c'est ce qu'on a vu tout récemment. Ben, l'indépendance énergétique, ça concerne aussi les renouvelables. Les renouvelables, pourquoi? Parce que si vous voulez développer des panneaux solaires, ce qui est une volonté massive et tout à fait logique, ben, si vous voulez développer des panneaux solaires, ben, vous apercevez qu'aujourd'hui, le seul pays ou les seuls pays producteurs de panneaux solaires qui ont malheureusement, avec des prix très très bas, complètement ruiner le marché dans les pays les plus développés. On va retrouver la Chine, on va retrouver les Philippines, donc des pays qui sont à très bas coût sur les panneaux solaires. Et puis enfin, là, entre guillemets, ce qu'on appelle, il y a pas mal de choses qui ont été écrites là-dessus, la guerre des métaux rares, ces fameux métaux dont on a absolument besoin, en particulier pour l'optimisation des aimants, par exemple, c'est les terres rares, le cuivre pour les réseaux électriques, le lithium, bien sûr, pour les batteries, le cobalt aussi pour les batteries, où on s'aperçoit qu'on a une dépendance assez forte, puisque ces matériaux sont concentrés géopolitiquement et géologiquement dans certains pays. Donc cette prise de conscience de l'indépendance énergétique, et donc c'est un peu le dilemme qu'on va avoir dans les années à venir. Comment gérer et comment les pays vont trouver le bon curseur entre d'un côté décarbonation et de l'autre côté indépendance énergétique.
Bon, alors une fois évidemment qu'on a parlé de tous ces chiens d'étrangers, la question est de se dire, bon, mais qu'est-ce qui se passe à la maison? Donc qu'est-ce qui se passe en France? Et là, bon, c'est pas très politiquement correct, donc évidemment, ça ne sort pas des eaux territoriales de l'île. Mais le résumé de la situation française, c'est un peu comme ce qu'on sait faire là depuis 2-3 ans, c'est un peu piétinement velléitaire.
Alors, avant peut-être de parler de la France, parler de l'Europe et puis parler d'un continent dont on n'a pas parlé sur les engagements de décarbonation et d'efficacité énergétique, c'est le continent le plus important à venir, c'est l'Afrique. Alors, on n'a pas parlé pourquoi, parce que l'Afrique, lors des différentes COP, jusqu'à la conférence de Bakou, une des dernières COP, a toujours refusé de prendre des engagements. Avec un raisonnement, qu'on accepte ou pas, qui est de se dire, mais finalement, c'est vous les pollueurs. Le CO2 émis reste, en moyenne, entre 50 et 100 ans dans l'atmosphère. Donc, en fait, nous, on paye les conséquences aujourd'hui de vos émissions. Et vous voudriez en plus qu'on prenne des engagements. Donc des engagements, d'accord, mais il faut les financer. Donc la position des grands pays, des grandes plaques africaines, c'est-à-dire on ne prendra pas d'engagement tant que vous ne les financez pas. Ce sera un des gros enjeux de la conférence de Belém, qui aura lieu là en novembre-décembre, de la COP30. À Bakou, ce qui avait été décidé, en tout cas, encore une fois, ce n'est pas des engagements, mais c'était plutôt les guidelines, c'était 300 milliards par an de dollars de subventions pour l'Afrique, et trouver un moyen que ces 300 milliards, par un effet d'accélération, génèrent 1300 milliards d'investissements privés et publics derrière, en fait, ces subventions. Bon, qu'est-ce qui va se passer à Bethléem? On a parmi nous, s'il y a des questions sur Bethléem, je vous orienterai sur des personnes très très impliquées dans la préparation de Bethléem qui est avec nous aujourd'hui. Voilà. Sinon, maintenant, avant de parler de la France, parlons de l'Europe. Donc l'Europe se trouve avec un sujet pas simple à traiter. En avant avec le Green Deal. Le Green Deal, c'était Europe Net Zero Emission. L'Europe reste dans ses obligations de ne plus émettre de CO2 donc, à l'horizon 2050. C'est un coût très important. Et encore une fois, si les autres pays ne le respectent pas ou ne le respectent pas au niveau attendu, l'Europe risque de se trouver quand même dans une situation difficile. Alors l'Europe, comme tous les pays du monde, c'est un patchwork. Patchwork énergétique complet. Avec, je vais prendre d'un côté le pays le plus vertueux, c'est la Norvège. 100% d'électricité décarbonée, ils ont beaucoup de chance, ça vient de l'hydraulique. C'est pour ça que Tesla s'est implanté en Norvège. C'est complètement logique dans ces pays-là de développer des véhicules électriques décarbonés. Le pays le pire en termes de CO2, ben, c'est la Pologne. La Pologne, aujourd'hui, produit son électricité majoritairement à partir de centrales à charbon. 700 grammes de CO2, c'est un des pays les pires au monde, comme l'Afrique du Sud, comme d'autres pays. Mais il y a un vrai sujet. En Pologne, il y a un sujet absolument évident. Et puis, deux pays qu'on aime tous, notre propre pays, la France, un peu schizophrénique quand même. En France, on a une énorme chance. En France, on fait 0,8% des émissions de CO2 aujourd'hui dans le monde. Donc, on est tout petit en émissions de CO2 grâce au nucléaire. Voilà, 75% de la production électrique qui vient du nucléaire. C'est un choix qui a été fait, on ne le discute plus. C'est un choix qui est quand même, en termes de CO2, extrêmement vertueux. On ne peut pas dire le contraire. Donc là, on a le pays, un des pays qui est le plus nucléarisé. L'âge d'or du nucléaire, années 80. Les réacteurs, en 2050, ces réacteurs, ils ne fonctionneront plus. Donc un mur devant nous. Comment va-t-on? Quel est le poste nucléaire? Avec tout le débat que vous connaissez, 100% renouvelable, 50% renouvelable. Ce qu'il faut juste avoir en tête, c'est que dans un mix énergétique, bien sûr, il faut du renouvelable. C'est indispensable. Le renouvelable, il a son problème d'intermittence. Il faut donc que vous ayez un moyen de produire de l'électricité 24 heures sur 24 de manière constante pour faire tourner votre industrie, pour faire tourner également l'éclairage et un minimum d'électricité. C'est ce qu'on appelle le base load, cette fabrication d'électricité de manière constante. Il faut reconnaître que là-dessus, le nucléaire a quand même un certain avantage. Donc, tout le débat, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais ayez conscience que le débat, c'est quelle est la part du nucléaire par rapport à la base au renouvelable, sachant que le nucléaire ne peut être rentable que s'il est utilisé, les centrales sont utilisées à 80-90%. Le nucléaire, c'est de l'investissement et des frais financiers. Tout ça, c'est des frais fixes. Si vous ne faites pas tourner votre nucléaire, entre guillemets, à 90%, vos coûts, s'il ne tourne qu'à 50%, vos coûts vont être multipliés par deux. Voilà. Donc c'est un gros enjeu. L'autre enjeu, c'est bien sûr que le nucléaire français soit compétitif. Aux alentours de, parce que c'est 70, 65, 75 euros du mégawattheure, il faut qu'il soit compétitif, ça c'est son défi. Et puis alors à côté, on a l'Allemagne, c'est un pays qu'on aime bien aussi, notre voisin, mais qui lui, alors c'est paradoxal, si je reprends l'exemple de la Chine, un des pays qui a été le plus vertueux en termes de renouvelables, panneaux solaires, éoliennes, mais qui est aujourd'hui un des pires en termes d'émissions de CO2, parce qu'il n'a pas, en tout cas, il y a eu un défaut dans son traitement, en tout cas de l'intermittence. Investissement massivement dans les renouvelables. Ils n'ont pas investi dans des centrales à gaz où ils ont gardé les centrales à charbon, ce qui fait que dès qu'il y a un problème d'intermittence, ils font tourner ces centrales. Voilà, donc des sujets qui sont extrêmement complexes. Et vous dire qu'il n'y a pas une solution, ce qu'il faut retenir dans ces sujets-là, il n'y a pas une solution, même si on regarde les scénarios mondiaux qui vous disent on va supprimer le charbon, on va diminuer, tout ça, pousser très fortement les renouvelables, il n'y a pas un scénario qui s'impose à l'ensemble des pays. C'est-à-dire qu'en fait, le vrai choix, c'est de trouver quel est le bon mix énergétique pour le pays concerné. Et ça, c'est pas facile. Mais ça se fait par des calculs économiques, prendre en compte le niveau de connaissance. Est-ce que c'est un pays qui est éligible ou non au nucléaire? On ne pourra pas mettre du nucléaire partout. Est-ce que c'est un pays qui a du gaz?
Est-ce que c'est un pays qui est capable, comme la Chine par exemple, qui pourrait être capable de séquestrer son carbone émis par ses centrales à charbon ? Qui serait un moyen aussi de réduire l'impact CO2 de centrales à charbon. Donc tout ça, ça ne peut passer que par des analyses extrêmement fines. Et puis, alors malheureusement, il faut le dire, par des choix politiques clairs. L'énergie, c'est l'horizon de l'énergie, c'est 20 ans. C'est pas 5 ans, c'est pas 10 ans. Une politique énergétique, c'est savoir où on positionnera le pays en 45, en 50, mais c'est maintenant que ça se décide. Et c'est là où c'est un peu malheureux, c'est de voir les errements politiques sur des choix fondamentaux qui sont à faire et qui, c'est pas seulement en France, hein, c'est dans beaucoup de pays, qui malheureusement sont pas clairs. Et dans ces cas-là, on recule et on risque de se retrouver avec un mur qui sera difficile à franchir.
Bon, on va enfin arriver au centre du monde, hein, donc à l'Île-Dieu. Alors là, c'est moi qui vais vous en parler en ma capacité d'ancien adjoint aux finances et à la transition énergétique. Alors je précise que ce que je vais vous dire n'engage que moi et pas du tout la municipalité qui serait d'ailleurs aujourd'hui bien en peine de formuler une opinion sur la question. Mais c'est un autre sujet. Donc l'Île-Dieu, je le résumerai de la façon suivante, des injonctions étatiques contradictoires qui nous conduisent à un certain pragmatisme. Alors bon, l'Île-Dieu, le point de départ, l'Île-Dieu c'est une île, mais c'est pas une autarcie. En fait, nous sommes importateurs de tout, quasiment tout, de ce que nous consommons sur le territoire. Donc que ce soit l'eau, l'électricité, la nourriture et les boissons. Alors, il y a eu des tentatives récentes et courageuses, mais c'est encore assez modeste, de production vinicole, mais bon, ça ne suit pas en termes de quantité, hein, c'est évident pour l'instant. Alors, quelques exemples des contradictions auxquelles nous sommes soumis. Bon, je vais commencer par ce qu'on voit dès que vous vous promenez sur la côte, c'est-à-dire les éoliennes qui sont en cours de construction. Donc, l'État achète l'électricité environ 17 centimes par kilowattheure à la société des éoliennes. Et 17 centimes par kilowattheure, c'est à peu près la moitié du prix auquel vous et moi, consommateurs, et la collectivité payent son kilowattheure. Donc l'intérêt pour le citoyen ne saute pas aux yeux, disons, dans un premier temps. Alors ce qu'on peut toutefois se dire, c'est que si on met ensemble la production du parc éolien de la Baule et puis celui qui va produire bientôt, enfin le nôtre, celui de l'Île-Dieu et de Noirmoutier, bah, ça va compenser la plus grande partie de la production de la centrale à charbon et à fioul de Cordemais, qui était entre Nantes et Saint-Nazaire et qui est maintenant fermée. Donc il y a un gain apparent en tout cas en termes de bilan carbone. Alors ce à quoi j'ai jamais eu accès, c'est par contre au bilan carbone de la fabrication des éoliennes et de la construction des éoliennes. Et ça, c'est pas tout à fait gratuit. Alors, un petit point positif quand même, hein, je raisonne au niveau de la collectivité, là, qui percevra à compter de 2027 une taxe éolienne qui a été décidée par le législateur, qui représente à peu près 700 000 euros de dotation, si vous voulez, étatique supplémentaire pour la commune. Donc la commune accueille également la base de maintenance qui est située dans l'ancienne criée sur le port, ce qui devrait aussi avoir quelques retombées positives en matière d'emploi. Alors si on regarde maintenant le sujet du solaire, bon, l'État a purement et simplement refusé de créer un parc solaire sur l'ancienne décharge des Corbeaux, donc qui est au bout de l'île, pour de sombres contradictions réglementaires générées par les propres services de l'État. Et l'État, dans sa grande sagesse, nous suggère de solariser les toits de l'île. C'est génial. Mais dans le même temps, le même État, toujours dans sa grande sagesse, il baisse les coûts de rachat de l'électricité photovoltaïque que vous auriez produit, donc l'excès que vous allez produire sur votre toit et que vous n'aurez pas consommé. L'État impose une complexité réglementaire absolument rédhibitoire sur l'autoconsommation collective qui, de facto, tue toute initiative citoyenne ou municipale sur le sujet. Alors, il y a des études de solarisation des bâtiments municipaux et de quelques terrains municipaux qui vont prochainement être démarrés. Bon, pour quel coût de travaux, j'ose même pas y penser, si vous voulez. Et je ne parle évidemment pas à ce stade de l'impact architectural d'avoir des panneaux noirs sur tous les toits qui se promènent. Bon, ça, c'est autre chose. Alors, une autre forme d'énergie qui a été regardée, auquel on peut penser, c'est le houlot moteur. Alors là, je vous arrête tout de suite, ça n'a aucun intérêt. Donc, on passe. Alors, le houlot moteur, ce sont des équipements qui bougent avec la force des vagues et qui, à ce moment-là, produiraient de l'électricité à partir de ce mouvement, du mouvement ainsi généré. Alors, l'État, toujours dans sa grande sagesse, nous a voulu nous proposer d'investir dans des catamarans, c'est pour renouveler les navires actuels, des catamarans à propulsion électrique. Alors là, il va falloir quand même qu'on nous explique quel est l'intérêt de construire des bateaux qui vont transporter des dizaines de tonnes de batteries entre Fromentine et Port-Joinville, sans compter qu'il faudra surdimensionner le réseau électrique et à Fromentine et sur l'île pour recharger les batteries des catamarans dans des délais raisonnables. Bon, fort heureusement, cette option a été abandonnée. Donc au moins on a été sauvés. Alors en fait, qu'est-ce qu'il faut faire une fois qu'on a dit ça? La seule bonne réponse, et ça n'engage que moi, c'est la sobriété. Alors la sobriété, elle commence certes avec l'énergie, mais, et je reboucle avec la conférence d'Elsa l'autre jour, la sobriété, elle commence aussi par l'eau. Alors l'eau, c'est un bien commun, je ne vous fais pas de dessin là-dessus. Et l'eau, c'est quelque chose à économiser, à recueillir. Je vous invite donc à installer des gouttières et des citernes et à ne pas arroser vos massifs et vos pelouses avec de l'eau potable. Ce qu'on peut faire également, c'est installer du solaire thermique, qui est beaucoup moins contraignant réglementairement que le solaire thermique. C'est un panneau solaire qui vous produit, qui chauffe de l'eau en fait, hein, qui chauffe. C'est l'inverse de votre réfrigérateur en fait. Ça va chauffer l'eau de votre chauffe-eau. Ça, c'est beaucoup moins contraignant que le photovoltaïque réglementairement parlant. Et on commence à voir apparaître. Je ne sais pas si la technologie est encore déjà tout à fait mature, mais on commence à voir apparaître des panneaux mixtes qui produisent à la fois de l'eau chaude et de l'électricité. Donc ça c'est assez malin. Alors après, j'ai une petite interrogation personnelle qui, j'imagine, ne concerne aucun d'entre vous ici présents. C'est les bateaux de plaisance. Parce que la consommation d'hydrocarbures de l'île, elle baisse régulièrement depuis 10 ans. Donc il y a 10 ans, on consommait à peu près 3 500 m3 par an de produits pétroliers, fuel oil domestique, le gasoil, l'essence, etc. Aujourd'hui, on est à 2 500. Et le seul poste qui augmente, c'est la consommation d'essence au port de plaisance pendant les 2 mois d'été. Bon, cherchez l'erreur. Il semblerait que ce soit lié à l'augmentation de la taille des moteurs des bateaux de plaisance. Alors, je ne conteste pas l'amusement de faire du ski nautique avec les enfants, hein, bien sûr, mais bon, ça me paraît un peu hérétique. Et le dernier point sur lequel je pense qu'on peut effectivement travailler à très court terme, et je laisserai Benoît vous en reparler, c'est celui du remplacement du parc de véhicules thermiques vieillissants. Personne n'est concerné ici, hein, bien évidemment. Donc, le remplacement de ce parc de véhicules thermiques vieillissants par des véhicules électriques d'occasion. Et je pense que ça, c'est vraiment un truc intéressant financièrement.
Non, mais l'île-Dieu est un bon exemple de regarder finalement la spécificité d'un territoire et quelles sont les actions qui sont, entre guillemets, les plus efficaces. Les plus efficaces, c'est comment réduire finalement les émissions de carbone, les émissions de CO2 au moindre coût. Voilà. Un exemple dont on parlait avec Michel, avec Loïc Capéran également, ancien dirigeant de Renault, et Philippe aussi, ancien dirigeant de PSA, c'est évidemment l'électrification. À partir du moment où il y a une énergie décarbonée sur l'île Dieu, Il y a 5-6 ans, c'était honnêtement pas évident, hein, parce que finalement, la voiture électrique, il y a 5-6 ans de Lille-Lieu, elle roulait au charbon, puisque en fait, l'électricité était faite dans la centrale à charbon de Cordemais. Mais maintenant, allez, maintenant, on a de l'électricité décarbonée, on est tous contents, même si ça coûte un peu cher à l'État français. Et c'est de se dire, oui, sur une île comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour pousser, à ce moment-là, les consommateurs, entre guillemets, à ferrailler leur vieille voiture thermique, qui consomme 180 grammes de CO2 par kilomètre, et puis avoir des voitures net zéro émission. Bah, certainement, l'île-Dieu s'y prête assez bien. Il va y avoir un parc d'occasion important qui va arriver, qui est en train d'arriver sur le marché, de véhicules qui ont des autonomies très limitées, hein, de l'ordre de 120-130 km. Hein, c'est les premiers véhicules électriques qui n'ont pas tellement de débouchés aujourd'hui. Sur l'île-Dieu, c'est l'idéal. Donc avec un système, hein, Michel, c'est ce qu'on disait, d'aide, entre guillemets, à la casse pour les vieilles voitures thermiques et de remplacement de véhicules électriques, hein, même les véhicules électriques d'occasion, ce serait tout à fait vertueux et sans doute très peu cher pour le consommateur et très peu cher pour les collectivités. Ça n'est qu'un exemple. Peut-être pour... Vas-y Michel, tu veux...
Je pense qu'on peut passer, à la conclusion, parce qu'il y a quand même quelques lueurs d'espoir, effectivement, dans tout ce qui a été dit aujourd'hui. Et puis on ouvrira les questions après, si vous voulez bien.
Alors, dans les conclusions, que dire ? Vous l'avez compris, gros sujet pour l'Europe, hein, parce que si l'Europe reste la plaque continentale qui serait, entre guillemets, unique, hein, à viser un scénario net zéro émission avec des coûts très importants, hein, c'est forcément un sujet d'interrogation. Donc l'Europe, hein, qu'est-ce qu'il va falloir qu'elle fasse ? Qu'elle se trouve des alliés, essayer de ne pas être seule. Voir quelle est la position du Japon, quelle serait la position 2050, c'était essentiellement Europe, Japon, Corée du Sud. Ça serait bien de ne pas être le seul, ça serait déjà une bonne chose. La deuxième chose, si l'Europe met en place des taxes carbone, il faut qu'elle se protège. C'est indispensable. Je vais prendre cet exemple, c'est le ciment sur le bassin méditerranéen. Si vous mettez des taxes carbone sur les cimenteries qui sont la MED, enfin dans le bassin méditerranéen en France, et vous ne mettez pas de taxes carbone dans des pays qui sont excédentaires en ciment, l'Égypte, la Turquie par exemple, qui importent massivement leur ciment en Europe et en France, vous tuez, vous désindustrialisez la France, vous tuez vos cimenteries. Elles ne peuvent pas survivre. Donc là, ça veut dire mise en place d'une taxe carbone à l'import. Ça, c'est très important. Le problème, c'est que c'est plus facile de mettre une taxe carbone à l'import si tous les pays sont en train de décarboner, alors que si vous êtes le seul à l'imposer, c'est plus difficile. Mais pour bien comprendre l'intérêt de la taxe carbone, c'est que, je reprends l'exemple du ciment, un pays qui est largement producteur de ciment et qui a comme débouché l'Europe. Ben, s'il ne décarbone pas, ben pendant 3-4 ans, il va payer une taxe carbone. Et puis, à un moment, il va se dire, c'est complètement idiot. Je suis en train de payer une taxe carbone à l'Europe pour un ciment que je produis chez moi. Autant décarboner chez moi, hein, puisque quand j'arriverai en Europe, puisque j'ai décarboné chez moi, je ne paierai plus de taxe carbone. Donc, vous voyez l'aspect vertueux de la taxe carbone. Difficile, bien sûr, à implémenter si vous êtes le seul ou un seul groupe de pays à la mettre en place. Donc ça, c'est certainement un sujet important. Les autres points, c'est tout ce qui touche à l'indépendance énergétique. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est un sujet qui est en train, les pays ont pris conscience, hein, de cette importance. Et dans des relations qui deviennent bilatérales, dans un commerce mondial qui devient limité, avec des barrières, ça poussera chacun à l'individualisme. Donc ça poussera chacun, il faut que l'Europe en particulier, puisse avoir accès, en tout cas consolider son accès à certaines matières premières. L'Europe a été quand même un peu longue à le comprendre. Celui qui l'a compris avant tous les autres, c'est la Chine. Ils ont très bien compris. Étant le leader, encore une fois, des renouvelables, en éolien, en solaire. Dès le début, ils ont intégré toute la chaîne, ils se sont intégrés en amont. Les usines de raffinage, de processing de ces minerais, de ces matériaux, sont aujourd'hui concentrées, hein, dans des entreprises chinoises. Et même, ils ont accès aux mines directement, où ils exploitent de nombreuses mines en Amérique du Sud et en Afrique. Et ça, c'est un sujet. Donc voilà, il faut pas non plus, il faut se dire aussi l'espace-temps, hein. L'espace-temps c'est quand même important, des positions un peu extrémistes qui sont prises aux États-Unis vont-elles durer ? Ce qui est inquiétant, c'est que ces positions, elles sont ancrées et actuellement, elles sont aussi diffusées parmi la population. Cette America Great Again, cette priorité finalement à cette richesse américaine, bah, c'est quelque chose, c'est comme ça que Trump a été élu, hein, ça percole dans les populations. Et c'est un autre sujet difficile d'expliquer finalement pourquoi il est si important de baisser nos émissions de CO2, la sobriété. La difficulté de ce sujet, c'est que les phénomènes climatiques sont des phénomènes extrêmement long terme. Et que malheureusement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le CO2 qui a été émis. Il va continuer à en être émettre. Nous ne verrons pas personnellement. J'essaie de regarder ici, nos enfants qui sont là, eux verront peut-être l'impact de nos actions, mais nous ne les verrons pas. C'est très difficile politiquement à vendre des actions qui ne sont pas toujours sympathiques parce que ça renchérit le prix de l'énergie à des citoyens qui n'en verront pas forcément directement l'impact. Voilà. Et puis le troisième élément de conclusion que je voudrais peut-être échanger avec vous, ces sujets-là en fait, donc il y a ici présent un autre professeur qui donne des cours avec moi sur ces points-là. C'est des sujets qu'on échange avec les jeunes. Et je voulais peut-être échanger avec vous sur quel est le feedback. C'est dommage, il n'y a pas beaucoup de jeunes là, d'assistance. Mais quel est le feedback, vous voyez, de jeunes ingénieurs on enseigne dans le monde entier sur ces sujets-là. Ben, ce qu'on en ressort, c'est des sujets qui intéressent les jeunes, qui les interpellent. Donc ça, c'est quand même une très bonne chose. C'est des sujets sur lesquels ils ont des connaissances très partielles. Ils sont très influencés, très très influencés par les réseaux sociaux. Donc on va trouver une part dans les grandes écoles d'ingénieurs, en particulier en France, une part d'activistes, hein, bien sûr, qui sont baignés hein, par les mêmes théories, les mêmes types d'informations. On va trouver une part optimiste, il n'y en a pas beaucoup, quoi, mais une part de jeunes qui ont envie de comprendre. Et quand on leur montre qu'ils peuvent être acteurs et qu'ils seront acteurs hein, dans les métiers. Les métiers de l'énergie, c'est sans fin, c'est fabuleux, hein, que ce soit le nucléaire, les renouvelables, l'efficacité énergétique. Hein. C'est un business énorme. L'automobile aussi, avec la transformation à venir, les batteries, le stockage de l'énergie. Donc quand on explique aux ingénieurs et quand on voit les investissements à faire, que c'est pour eux un secteur d'activité qui est passionnant et qui va créer hein, énormément de choses en recherche-développement, mais également en job industriel, on sent un réel intérêt. Et en fait, je vais finir par ça, pour leur faire comprendre finalement la problématique, je crois que le meilleur exercice qu'on fait, on les met dans une position comme s'ils étaient consultants énergie pour le ministère de l'énergie du Nigeria, du Kazakhstan, de l'Allemagne, de la Pologne ou du Canada par exemple. On leur donne des pays et on leur dit ben voilà, vous êtes consultant et vous devez proposer deux ou trois scénarios pour arriver à une politique bas carbone. On ne vous donne pas l'échéance, on ne vous dit pas c'est 2050, 2060, c'est à vous de la trouver. C'est à vous de nous proposer des solutions, de les chiffrer. C'est un exercice qui n'est pas toujours facile. Et surtout, c'est, je crois, le plus important, posez-vous la question, est-ce que les propositions que vous faites seront politiquement acceptables ? Le pire, c'est de proposer des solutions qui seront beaucoup trop onéreuses pour le pays, pour les consommateurs, et qui finalement ne pourront pas être appliquées. Parce que là, on ira vraiment dans des mauvaises routes, en fait. Hein. On aura fait plein d'efforts pour finalement quelque chose qui ne sera pas accepté par les populations. Voilà, c'est un moyen, je trouve, qu'on aime bien hein, d'interagir avec les jeunes et très honnêtement, qui nous donne confiance dans la jeune génération. Je trouve que ces jeunes, ils sont sympathiques. Ces jeunes ingénieurs, ils ont envie de contribuer voilà, à ce monde meilleur. Et une partie des enjeux climatiques, ça va reposer sur eux.
Je vais faire passer le micro si vous avez des questions. Et en cas de conflit entre questions, je privilégie les dames. On est d'accord ?
Merci pour ces éclaircissements très intéressants. Ah, et vous n'avez pas parlé de la source de l'hydrogène.
Bon, alors je vais essayer de répondre. J'ai un fils qui est ici présent, qui répondrait mieux que moi. Il est ingénieur chez Air Liquide. Bon, l'hydrogène, c'est un bon exemple. C'est, merci Soizic de cette question. C'est un bon exemple d'emballement médiatique. Donc, il y a 3 ans, on se dit, l'hydrogène, formidable, ça va être une des solutions importantes de décarbonation. Le problème de l'hydrogène, c'est que, contrairement à d'autres sources d'énergie, il ne se trouve pas, ou pratiquement pas, à l'état naturel. C'est un gaz qui est tellement léger que s'il est stocké dans le sous-sol, à moins qu'on trouve des découvertes, mais tous les géologues qu'on nous intéresse nous le confirment, à l'état naturel, il y en a très peu. Donc l'hydrogène, il faut le fabriquer. Et donc l'hydrogène, aujourd'hui, il est utilisé dans l'industrie, pour désulfurer les carburants, pour essentiellement tout ce qui est engrais également, dans la pétrochimie. Et l'hydrogène, il faut le fabriquer. Et aujourd'hui, la solution la plus économique pour fabriquer l'hydrogène, c'est ce qu'on appelle les SMR, c'est finalement, je prends du gaz, CH4, je le fais interagir avec de la vapeur d'eau, et ce CH4 va me sortir de l'hydrogène, mais malheureusement aussi du CO2. Donc, la production d'hydrogène telle qu'elle est aujourd'hui est énormément génératrice de CO2. Donc, la priorité, en fait, sur l'hydrogène, la priorité des priorités, c'est ce que vous disent toutes les personnes, les sachants d'Air Liquide, c'est de décarboner l'hydrogène actuel. Et comment le décarboner? C'est par électrolyse de l'eau. Le problème, c'est que l'eau, c'est une des molécules les plus solides, et donc, il faut beaucoup d'électricité. Voilà le sujet. Il faut énormément d'électricité. Ça, c'est... Mais on y arrivera. Donc, l'aspect positif, c'est qu'on arrivera certainement à décarboner de l'hydrogène. L'autre emballement qu'il y a eu, ça a été l'hydrogène pour la mobilité. Vous avez tous entendu parler du véhicule à hydrogène, des camions à hydrogène. On s'est tous dit, voilà, ça, c'est la panacée. Alors, il y a des petites équations à avoir en tête de la physique ou de la chimie. Si je prends un électron, je le mets dans une voiture, j'arrive à récupérer 90% de l'énergie de cet électron en mobilité. Si le même électron, je le mets dans un électrolyseur, cet électrolyseur, ensuite, il va me produire de l'hydrogène que je mets dans une pile à combustible. Ma pile à combustible va alimenter la batterie de ma voiture. Je perds 75% de l'énergie. Je crois que c'est CQFD, c'est-à-dire qu'en fait, il faut énormément d'énergie pour produire de l'hydrogène pour la mobilité. Voilà. Donc, l'hydrogène, l'enjeu, décarboner l'hydrogène industriel. Voilà.
Oui, alors, ma question est peut-être un petit peu naïve, mais je pense que est assez intéressante. C'est comment voulez-vous faire pour permettre à des États comme l'Inde ou le Brésil, dont l'économie est essentiellement basée sur la production agricole et son exportation, production qui est souvent très polluante, comment faire pour convaincre ces pays-là et comment faire surtout pour leur donner des solutions pour ne pas s'appauvrir, eux qui ont une économie qui est quand même assez fragile, même si elle est en croissance, alors même que les objectifs écologiques semblent en contradiction avec la production économique. C'est ça que je voudrais dire. Est-ce que finalement, la transformation du système économique en général, ou alors peut-être l'accord d'aide divers et variés, ne pourrait pas être plus intéressant vis-à-vis de l'Inde ou vis-à-vis du Brésil, plutôt que de chercher à les écologiser, entre guillemets, lors même que ces États-là n'ont pas forcément la situation économique qui le permet. C'est ce que je voulais dire.
Alors, il y a deux situations très très différentes, l'Inde et le Brésil. Alors, si on regarde l'Inde, une des problématiques de l'Inde, c'est un des pays qui a le développement économique le plus élevé, le plus important. Donc, vous avez raison. Les aider, comment les aider face à cette croissance de demande en énergie, comment arriver à ce que l'Inde puisse, tout ce qui est l'énergie incrémentale, soit une énergie décarbonée. Décarboner, c'est soit du renouvelable, ça peut être du nucléaire, ça peut être carbon capture and storage sur leur centrale à charbon. Et c'est certain qu'en termes de financement, des orientations de financement sur ces pays-là, qui ont devant eux un énorme enjeu de croissance de la production d'énergie, est très efficace et sans doute prioritaire. Le Brésil, c'est un peu différent parce que le Brésil a une économie, en particulier de l'énergie, complètement liée en fait à la biomasse. Hein, à la biomasse. Le Brésil est un pays en termes d'émissions de CO2 qui est relativement vert, donc de la biomasse. Donc je crois que là, c'est plutôt un sujet en effet lié aux techniques de l'agriculture, une agriculture qui soit moins intensive. Mais je suis désolé. Je ne suis pas expert dans ce domaine-là, donc je ne pourrais pas vous répondre, en tout cas, je pense, de manière pertinente sur le sujet de l'agriculture.
Bonjour, merci beaucoup. Je voulais avoir votre avis sur l'évolution de la compétitivité prix des énergies renouvelables, parce qu'à plusieurs reprises, vous l'avez un peu aujourd'hui posé comme un postulat que c'était moins compétitif. Sur votre exemple sur les exportations, en disant, voilà, si je décarbone, je vais perdre un avantage prix. Sur les 20 dernières années, on a bien vu une évolution assez flagrante. Quelle est votre opinion sur l'attractivité prix de ces énergies renouvelables par rapport aux énergies fossiles traditionnelles, qui elles-mêmes probablement vont moins évoluer en compétitivité prix sur les 20 prochaines années? Voilà, est-ce que il y a une fatalité à considérer que le renouvelable sera toujours plus cher ou pas? Et puis ma deuxième question, c'est que les fortes émissions de gaz à effet de serre provoquent du réchauffement climatique, c'est pas juste désagréable, ça tue aussi la biodiversité, et plus il y a de réchauffement climatique, moins il y a de biodiversité, et les fondements de la biodiversité provoquent aussi du réchauffement climatique, parce que la biodiversité, c'est un puits de carbone. Est-ce qu'on commence un peu, ou pas du tout, à penser biodive chez les énergéticiens? Merci.
Merci pour votre question. Alors, le premier point, le coût des énergies renouvelables a énormément baissé. Aujourd'hui, si vous regardez dans un pays avec, bien sûr, un taux d'ensoleillement suffisant, hein, bien sûr, hein, dès qu'on est dans les taux d'ensoleillement suffisants, le coût, l'euro du mégawattheure d'un panneau solaire, ferme solaire, hein, pas sur les toitures, est compétitif. Il n'y a aucun doute, hein, on est aux alentours de 50-45 euros du mégawattheure. Donc, l'énergie solaire est compétitive. L'énergie éolienne onshore a fortement baissé ses prix, hein, on est aussi de l'ordre de 60-70 euros du mégawattheure. Le seul problème, c'est l'intermittence. C'est que je dois tenir compte dans mon schéma énergétique renouvelable du coût de l'intermittence, de la compensation de l'intermittence. Si je ne compense pas par des centrales existantes, vous voyez, hein, ce qu'a fait par exemple l'Allemagne, c'est qu'il me faut un système de batterie, plus un système, étant donné que l'énergie renouvelable est extrêmement diffuse, de réseaux électriques. Alors je vais juste me référer, il faut toujours se référer à des scénarios, au scénario RTE France. Hein, le scénario RTE France, dans un scénario un peu extrême où on serait à 100% renouvelable, en gros, il faut doubler le coût du renouvelable, donc le coût du panneau solaire, vous multipliez par 2 pour rajouter, en gros, 50% de coûts de stockage, batterie et autres, et 50% de réseau. Voilà, donc vous voyez, la réponse, le coût spot de la ferme solaire, à partir du moment où je le traite par une intermittence existante, c'est compétitif. Dès que je dois mettre en place un système pour combler cette intermittence, ça ne l'est pas. C'est plus difficile. Par contre, tout à fait, donc il faut les relier, c'est les coûts réseau, ça, c'est les coûts réseau. Hein. Oui. Heureusement, parce qu'il y a aussi le gaz. Il y a aussi le gaz. Alors, juste le. Oui, tout à fait. Alors, un des points sur lesquels je voudrais ajouter très rapidement, hein, pour bien comprendre, c'est que par rapport à ces coûts. En effet, le fossile, ben, tout dépend du prix du baril et du prix du gaz. Là, et du prix du charbon. Le charbon, là où il devient anticompétitif, c'est le jour où je lui mets une taxe carbone. Si je lui mets une taxe carbone, en gros, le prix du charbon, je lui rajoute pratiquement 80 euros du mégawattheure. Donc une centrale à charbon qui serait aux alentours de 60, je lui mets une taxe carbone à 100 dollars la tonne, j'arrive à 140. Donc c'est là aussi la vertu de la taxe carbone. Voilà.
On va peut-être pas rentrer dans un débat d'experts sur le coût
incrémentale du réseau. Peut-être un point rapide sur la biodiversité, parce que c'était la deuxième partie de la question, et puis j'ai une autre question après, juste un petit point sur la biodiversité.
Alors, la biodiversité, c'est un sujet. Les énergéticiens ne sont pas des experts en biodiversité, donc ils doivent absolument s'appuyer sur des experts en biodiversité. Je vous invite sur ce sujet où il y a un rapport qui est franchement difficilement concevable. Il a été publié il y a une semaine par le département américain de l'énergie pour montrer comment le CO2 actuel et les émissions de CO2 peuvent avoir un effet positif également sur l'agriculture américaine.
On vous laisse digérer tout ça. J'ai une autre question ici.
Oui, il y a un débat intense et virulent en ce moment entre au gouvernement et au Parlement sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui d'ailleurs a quelques années de retard, et il y a une volonté d'un certain nombre de partis politiques d'imposer un moratoire sur les énergies renouvelables qui vient percuter cette programmation. Comment vous voyez, quels sont les enjeux de ce débat et quelle en est selon vous l'issue ?
Non, honnêtement, je me positionnerai pas là-dessus. Je suis désolé, mais j'ai essayé de résumer ce sujet. On est dans un pays qui a la chance d'avoir du nucléaire, un mur devant nous qui est l'arrêt nucléaire dans les 20 années à venir. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Je reviendrai sur le scénario RTE. Il l'a fait, il l'a chiffré. 100% renouvelable. Le scénario était assez politique parce qu'ils se sont arrêtés à un scénario 50% nucléaire, 50% renouvelable. Ils ne sont pas allés au-delà. Bah, je crois que c'est tout le débat. Gardons en tête qu'un pays qui a du nucléaire et qui souhaite décarboner, le nucléaire est une solution, mais n'utilisons jamais le nucléaire en backup. Si vous utilisez du nucléaire uniquement pour compenser l'intermittence du renouvelable, vous allez faire payer aux citoyens un double coup.
Notre question, madame.
Bonjour et merci. Je suis étonnée que vous nous présentiez le ciment en exemple alors qu'il n'est pas spécialement bas carbone. Non mais...
Justement, c'est pour ça que je voulais vous présenter le ciment. C'est que le ciment de demain dans une Europe qui sera net zéro émission devra être bas carbone. C'est la raison. Voilà. Alors, vous avez le problème du sable, vous avez le problème du clinker, mais vous avez surtout la fabrication du ciment, c'est CaCO3. CaCO3, ça émet du CO2. Donc, de par nature, le ciment émet du CO2, le process du ciment émet du CO2, et pour décarboner le ciment, il y a soit des ruptures technologiques, alors on parle de ciment à partir de chanvre, à partir de biochar ou autre, il y a plein de choses, mais il y a également, c'est un des exemples de carbon capture and storage, réutilisation. Capture du CO2 pour une réutilisation ou pour le stocker. Ça aura un coût, c'est dans cet axe-là, voilà, que je citais le ciment. Mais je vous remercie de votre question.
Merci. Une autre question ?
Oui, bonjour, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez des prix du marché spot de l'électricité qui sont tous les jours nuls voire négatifs ? Qu'est-ce que ça révèle de notre capacité d'investissement à long terme ?
Alors, heureusement pour les investissements, ils ne sont pas toujours nuls ou négatifs. Ça dépend vraiment, quand vous regardez en fait la fameuse intermittence. Quand vous regardez, on peut avoir des prix qui montent en hiver lorsqu'on est sur des pics à des prix de l'ordre de 200 € du mégawattheure, mais on peut également avoir des prix négatifs, c'est vrai. Alors ça peut aussi avoir, et c'est un des points importants que je voulais citer, en France, mais également dans d'autres pays, c'est tout, volontairement je ne l'ai pas cité, c'est toute l'utilisation de l'hydraulique en stockage. Ça c'est extrêmement intéressant, et c'est vrai que le développement de l'intermittence, lorsque j'ai à ce moment-là beaucoup de vent comme aujourd'hui, beaucoup de soleil, donc je pense que j'ai une forte production d'intermittence, avec un coût de l'électricité qui est marginal, comment est-ce que je peux utiliser ce coût d'électricité marginal ? Alors, la chose assez logique, c'est de dire, finalement, si j'ai un barrage qui peut me repomper mon lac bas vers le lac haut, à ce moment-là, c'est un moyen de stocker de l'énergie. Et l'exemple allemand, qui était de dire, à ce moment-là, quand l'électricité est négative, je vais fabriquer de l'hydrogène par un électrolyseur.
Alors, nous avons droit à deux questions.
Bonjour, et je voulais savoir, parce qu'il y a un spécialiste pour Belém, pour le futur... Est-ce qu'il peut nous dire l'orientation qu'il va y avoir ? Ce qui se prépare ?
Alors, Philippe, est-ce qu'on peut te passer la parole ?
Oui, merci. Bon, merci pour... merci Benoît pour avoir sollicité la question. Oui, donc si je peux en dire un mot, c'est parce que je préside la Chambre de commerce internationale, qui est l'Organisation mondiale des entreprises, qui est une organisation internationale basée à Paris, qui est connue pour la cour d'arbitrage, tout ce qui est droit du commerce international, mais qui est à Belém, ce qu'on appelle le Focus Business Point, puisque à Belém, comme dans les précédentes COP, les parties, ce sont des États. Donc il y a eu 175 États qui ont signé il y a 10 ans, puis sont montés à 195. Ils se retrouvent donc une fois par an, hein, à Belém. Le cas précis à Belém, mais d'ailleurs, il y a un petit problème de place parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont à Belém, mais il n'y a pas beaucoup de place. Et ICC, on a été obligé de louer un bateau pour pouvoir être présent. Voilà. Mais ça, c'est pour l'anecdote. Donc à Belém, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 10 ans, on a, donc les partis se sont mis d'accord sur des NDCs, National Determined, oui. Commitment. C'est-à-dire, tout fonctionne par consensus. Les NDCs, chaque pays dit voilà ce que je peux faire pour abattre mon carbone. Et ce qui a été prévu il y a 10 ans, c'est que 10 ans après, c'est-à-dire maintenant, on réactualise les NDCs. Et donc, premier point pour Belém, ça va être de dire où est-ce qu'on est aujourd'hui. Bon, et c'est pas évident qu'on soit dans les temps pour Belém, d'ailleurs, c'est un gros sujet. Et le deuxième point, c'est le lien avec la trajectoire qu'évoquait Benoît. C'est-à-dire qu'à Dubaï, il y a 2 ans, on a fait une évaluation par rapport au 1,5 à 2 degrés où on est. Effectivement, à Dubaï, on arrive à 2 degrés si on fait tous les NDCs. Franchement, c'est très optimiste. Si on ne les fait pas, on peut monter jusqu'à 4 degrés. Hein. Donc, on va refaire cette évaluation. Alors, la grosse question de Belém, c'est si on prend les NDCs et puis la trajectoire, c'est si on veut revenir donc, dans les clous, les projets qui doivent être faits, alors, ils sont nombreux, notamment dans les pays en développement. C'est est-ce qu'on va avoir la finance pour les faire? Et à Bakou l'année dernière, on a dit il faudra 1,3 trillion de dollars, 1300 milliards de dollars, dont une grosse partie va devoir être financée par les pays développés pour que les pays en développement acceptent de faire les projets. Et aujourd'hui, on a deux obstacles majeurs. Deux obstacles qu'on va essayer de régler à Belém. Le premier, c'est que les banques ne peuvent pas investir dans les pays en développement. Pourquoi ? Parce qu'elles ont le règlement dit de Bâle III qui les oblige, lorsqu'elles investissent dans un pays à risque, eh bien, c'est de mettre dans leur bilan des réserves colossales. Bilan d'opération, il n'y a plus une banque occidentale qui est aujourd'hui présente en Afrique. C'est quand même un gros problème. Et le deuxième sujet, c'est que quand on fait des projets, il faut mettre des fonds propres. Alors dans les fonds propres, aujourd'hui, la Banque mondiale, lorsqu'elle met 1 dollar, l'investissement privé ne vient que pour 1,3 dollar. Alors que normalement, il devrait venir pour 4, 5 ou 10 fois plus. Donc il faut que la Banque mondiale et les organismes multilatéraux de financement prennent eux-mêmes des risques. Actuellement, ils ne font pas, en fait. En fait, ils font que des prêts. Donc à ce moment-là, l'investissement privé ne vient pas. Donc pour faire simple, on n'a pas la dette et on n'a pas d'investissement privé. Donc ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'est une ouverture qui est importante sur la biodiversité qu'on évoquait tout à l'heure. C'est qu'à Bakou, il y a un article de l'accord de Paris qui n'avait pas été validé. C'est l'article 6 qui est sur les marchés volontaires du carbone. C'est-à-dire que on peut, normalement, on doit pouvoir, on veut réduire une tonne de carbone. C'est parfois beaucoup plus facile dans un pays en développement que dans un pays développé. Donc, comme on a des engagements, par exemple, en Europe, les industriels, eh bien, au lieu de réduire une tonne de carbone, je ne sais pas, à Dunkerque, par exemple, ben, on peut avoir intérêt à le faire au Rwanda ou au Botswana, ça coûtera 3 fois moins cher. Et à ce moment-là, on pourrait comptabiliser cette réduction 3 fois moins chère dans son bilan carbone et ses obligations en Europe. Donc ça, c'est ouvert. Ça veut dire qu'il faut mettre en place des contrats qui vont permettre à un industriel européen ou américain, s'il y avait des contrats, enfin des obligations aux États-Unis, ce qui n'est plus le cas d'ailleurs, eh bien c'est de se dire, je peux avoir un financement d'un puits de carbone au Botswana ou en Inde d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire, je vais le financer. ce qui permet de financer des opérations de puits de carbone dans les pays en développement. Donc ça, ça suppose des contrats assez sophistiqués, parce qu'il faut que le sous-jacent soit très très robuste, hein, pour qu'on puisse se dire que ce soit vraiment un puits de carbone, puis il faut aussi un mécanisme de contrat. Donc ça, c'est le deuxième grand objectif avec la finance.
Merci beaucoup. Donc, comme vous avez compris, Philippe nous fera un petit exposé l'été prochain sur les suites sur Belém. Merci beaucoup. Donc, je vous propose d'arrêter là les questions, puisque de l'île d'Yeu, on est reparti à Belém. Donc, je crois qu'on a à peu près fait le tour du monde là. Alors, au nom de Benoît, bon, je vous précise qu'il est encore sur l'île là pendant un certain temps. Donc il est en vacances, mais il accepte toute demande d'approfondissement du sujet qui est accompagnée d'une promesse de champagne millésimée sera évidemment regardée avec la plus grande bienveillance. C'est ça. Donc, merci beaucoup. Et sur ces mots, je redonne la parole donc aux utilisateurs qui ne rêvent que de vous libérer, hein, bien évidemment. Merci, bonne journée.